Chapitre 4, dixième partie. Jeudi 25 octobre. En compagnie du chat, j'ai travaillé tout le jour dans la solitude de mon palais de la Rotonde que j'avais déserté hier. À l'heure où le soleil rouge du soir s'enfonce derrière le lac des Lotus, mes deux serviteurs, comme d'habitude, viennent me chercher. Mais le pont de marbre franchi, nous passons cette fois sans nous arrêter devant la brèche qui mène à mon fragile palais du Nord. Nous avons à sortir de nos quartiers, à travers la poussière et les ruines, car je dois faire visite à Monseigneur Favier, évêque de Pékin, qui habite dans notre voisinage, en dehors, mais tout près de la ville impériale. C'est déjà le crépuscule quand nous entrons dans la concession catholique, où les missionnaires et leurs pauvres troupeaux jaunes viennent de subir les détresses d'un long siège. Et la cathédrale, criblée de mitraille, nous apparaît vague dans un ciel éteint, si poussiéreux qu'on le croirait voilé de brume. La cathédrale nouvellement bâtie, celle dont l'impératrice accorda la construction, en remplacement de l'ancienne dont elle fit son garde-meuble. Monseigneur Favier, chef des missions françaises, habitant Pékin depuis 40 années, ayant longtemps joui de la faveur des souverains, avait été le premier à prévoir et à dénoncer le péril Boxer. Malgré l'effondrement momentané de son œuvre, il est encore une puissance en Chine, où un décret impérial lui a jadis conféré le rang de vice-roi. La salle où il me reçoit, au mur blanc, avec un trou d'obus récemment bouché, contient de précieux bibelots chinois dont la présence dans ce presbytère étonne tout d'abord. Il les collectionnait autrefois et il les revend aujourd'hui pour pouvoir secourir les quelques milliers d'affamés que la guerre vient de laisser dans son église. L'évêque est un homme de haute taille, de beaux visages réguliers, avec des yeux de finesse et d'énergie. Il devait lui ressembler, par l'allure aussi bien que par l'opiniâtre volonté, ces évêques du Moyen-Âge qui suivaient les croisades en Terre Sainte. C'est seulement depuis le début des hostilités contre les chrétiens qu'il a repris la soutane des prêtres français et coupé sa longue tresse à la chinoise. On sait que le port de la queue et du costume mandarin était une des plus énormes et subversives faveurs accordées aux lazaristes par les empereurs célestes. Il veut bien me retenir une heure auprès de lui, et tandis qu'un chinois soyeux nous sert le thé, il me redit la grande tragédie qui vient de finir ici même. Cette défense de 1400 mètres de mur, organisée avec rien par un jeune enseigne et 30 matelots. Cette résistance de plus de 2 mois contre des milliers de tortionnaires qui déliraient de fureur au milieu de l'énorme ville en feu. Bien qu'il compte tout cela à voix très basse, dans la salle blanche un peu religieuse, sa parole devient de plus en plus chaude, vibrante en sourdine, avec une certaine rudesse de soldat et de temps à autre une émotion qui lui étrangle la gorge. Surtout, lorsqu'il est question de l'enseigne Henri. L'enseigne Henri, qui mourut traversée de 2 balles sur la fin du dernier grand combat. Ces 30 matelots, qui eurent tant de tués et qui furent blessés presque tous. Il faudrait graver quelque part en lettres d'or leur histoire d'un été, de peur qu'on ne l'oublie trop vite, et la faire certifier telle parce que bientôt on n'y croirait plus. Et ces matelots-là, commandés par leur officier tout jeune, on ne les avait pas choisis. Ils étaient les premiers venus, pris en hâte et au hasard à bord de nos navires. Quelques prêtres admirables partageaient leur veille, quelques braves séminaristes faisaient le coup de feu sous leurs ordres, et aussi une horde de Chinois armés de vieux fusils pitoyables. Mais c'était eux, l'âme de la défense obstinée. Et devant la mort, qui était tout le temps présente dans la diversité de ses formes les plus atroces, pas un n'affaiblit ni murmuré. un officier et 10 matelots italiens, que le sort avait jeté là, s'étaient jusqu'à la fin battus, héroïquement aussi, laissant 6 des leurs parmi les morts. Oh, l'héroïsme enfin, le plus humble héroïsme de ces pauvres chrétiens chinois, catholiques ou protestants, réfugiés pêle-mêle à l'évêché, qui savaient qu'un seul mot d'abjuration, qu'une seule révérence à une image bouddhique leur garantirait la vie, mais qui restaient là tout de même, fidèles, malgré la faim torturante aux entrailles et le martyre presque certain. En même temps, du reste, en dehors de ces murs qui les protégeaient un peu, 15 000 environ de leurs frères étaient brûlés, dépecés vifs, jetés en morceaux dans le fleuve pour la nouvelle foi qu'ils ne voulaient point renier. Il se passait des choses inouïes pendant ce siège. Un évêque, la tête éraflée par les balles, allait, suivi d'un enseigne de vaisseau et de 4 marins, arracher un canon à l'ennemi. Des séminaristes fabriquaient de la poudre avec les branches carbonisées des arbres de leur préau et avec du salpêtre qu'ils dérobaient la nuit en escaladant les murs dans un arsenal chinois. On vivait dans un continuel fracas, dans un continuel éclaboussement de pierres ou de mitrailles. Tous les clochetons en marbre de la cathédrale, criblés d'obus, chancelaient, tombaient par morceaux sur les têtes. À toute heure, sans trêve, les boulets pleuvaient dans les cours, enfonçaient les toits, crevaient les murs. Mais c'était la nuit surtout que les balles s'abattaient comme grêle et qu'on entendait sonner les trompes des boxers ou battre les affreux gongs. Et leurs cris de mort, tout le temps, à plein gosier, « Chat, chat, tuons, tuons » ou « Chao, chao, brûlons, brûlons » emplissait la ville comme la clameur d'ensemble d'une immense meute en chasse. On était en juillet, en août, sous un ciel étouffant, et on vivait dans le feu. Des incendiaires arrosaient de pétrole les portes ou les toits avec des jets de pompe et lançaient dessus des étoupes allumées. Il fallait d'un côté ou d'un autre courir, apporter des échelles, grimper avec des couvertures mouillées pour étouffer ces flammes. Courir, il fallait tout le temps courir, quand on était si épuisé, avec la tête si lourde, les jambes si faibles, de n'avoir pas mangé à sa faim. Courir, il y avait une sorte de course lamentable que les bonnes sœurs avaient charge d'organiser, celle des femmes et des petits-enfants, hébétés par la souffrance et la peur. C'était elles, les sublimes filles, qui décidaient quand il y avait lieu de changer de place suivant la direction des obus, et qui choisissaient la minute la moins dangereuse pour prendre son élan, traverser une cour tête baissée, aller s'abriter autre part. Un millier de femmes, maintenant sans volonté et sans idée, ayant au cou de pauvres bébés mourants, les suivaient alors comme un remous humain, avançaient ou reculaient, se poussant pour ne pas perdre de vue les blanches cornettes protectrices. Courir, quand on ne tenait plus debout faute de vivre, et qu'une lassitude suprême vous poussait à vous coucher par terre pour attendre de mourir. Les détonations qui ne cessaient pas, le perpétuel bruit, la mitraille, la dégringolade des pierres, on s'habituait encore à cela, et à voir à chaque instant quelqu'un s'affaisser dans son sang. Mais la faim était un mal plus intolérable que tout. On faisait des bouillies avec les feuilles et les jeunes pousses des arbres, avec les racines des dahlias du jardin et les oignons des lys. De pauvres Chinois venaient humblement dire « Il faut garder le peu qui reste de millet pour les matelots qui nous défendent et qui ont plus besoin de force que nous. » L'évêque voyait se traîner à ses pieds une femme accouchée de la veille qui suppliait « Évêque, évêque, fais-moi donner seulement une poignée de grains pour qu'il me vienne du lait et que mon petit ne meure pas. » On entendait toute la nuit dans l'église les petites voix de 200 ou 300 enfants qui gémissaient pour avoir à manger. Suivant l'expression de Monseigneur Favier, c'était comme les bêlements d'une troupe d'agnelets destinés au sacrifice. Leurs cris, d'ailleurs, allaient en diminuant, car on en enterrait une quinzaine par jour. On savait que non loin de là, aux légations européennes, un drame pareil devait se jouer, mais il va sans dire, toute communication était coupée, et quand quelques jeunes chrétiens chinois se dévouaient pour essayer d'aller y porter un mot de l'évêque, demandant des secours ou au moins des nouvelles, on voyait bientôt sa tête, avec le billet épinglé à la joue, reparaître au-dessus du mur, au bout d'une perche enguirlandée de ses entrailles. Tout était plein de sang, de cervelle jaillie des crânes brisés. Non seulement des boulets tombaient par centaines chaque jour, mais les boxers dans leurs canons mettaient aussi des cailloux, des briques, des morceaux de fer, des cassons de marmite, ce qui tombait sous leurs mains forcenées. On n'avait pas de médecin, on pansait comme on pouvait et sans espoir les grandes blessures horribles, les grands trous dans les poitrines. Les bras des fossoyeurs volontaires s'épuisaient à creuser le sol pour enfouir les morts ou des débris de morts. Et toujours les cris de la meute enragée « Chat, chat, tuons, tuons !» Et toujours les gongs avec leur bruit de sinistre ferraille, et toujours le beuglement des trompes. Des mines sautaient de différents côtés, engloutissant du monde et des pans de murs. Dans le gouffre que fit l'une d'elles, disparurent les 50 petits bébés de la crèche, dont les souffrances au moins furent finies. Et chaque fois, c'était une nouvelle grande brèche ouverte pour les boxers qui se précipitaient. C'était une entrée béante pour la torture et la mort. Mais l'enseigne Henri accourait là toujours, avec ce qui lui restait de matelot. On le voyait surgir à la place qu'il fallait, au point précis d'où l'on pouvait tirer le mieux, sur un toit, sur une crête de muraille. Et il tuait sans perdre une balle de leur fusil rapide, chaque coup donnant la mort. Par terre, ils en couchaient 50, 100, en monceaux, et fiévreusement les prêtres, les Chinois, les Chinoises apportaient des pierres, des briques, des marbres de la cathédrale, n'importe quoi, avec du mortier tout prêt, et on refermait la brèche, et on était sauvé encore jusqu'à la mine prochaine. Mais on n'en pouvait plus. La maigre ration de bouillie diminuait trop. On n'avait plus de force. Ces cadavres de boxers, qui s'entassaient tout le long du vaste pourtour désespérément défendu, emplissaient l'air d'une odeur de peste. Ils attiraient les chiens, qui dans les moments d'accalmie s'assemblaient pour leur manger le ventre. Alors, les derniers temps, on tuait ces chiens du haut du mur, on les pêchait avec un croc au bout d'une corde, et c'était une viande réservée aux malades et aux mères qui allaitaient. Le jour enfin où nos soldats entrèrent dans la place, guidés par l'évêque à cheveux blancs, qui debout sur le mur agitait le drapeau français, le jour où l'on se jeta dans les bras les uns des autres avec des larmes de joie, il restait tout juste de quoi faire en y mettant beaucoup de feuilles d'arbres, un seul et dernier repas. Il semblait, dit Monseigneur Favier, que la Providence eût compté nos grains de riz. Et puis, il me reparle encore de l'enseigne Henri. La seule fois, dit-il, pendant tout le siège, la seule fois que nous ayons pleuré, c'est à l'instant de sa mort. Il était resté debout longtemps, avec ses deux blessures mortelles, commandant toujours, rectifiant le tir de ses hommes. À la fin du combat, il est descendu lentement de la brèche, et il est venu s'affaisser entre les bras de deux de nos prêtres. Alors nous pleurions tous, et avec nous, tous ces matelots qui s'étaient approchés et qui l'entouraient. C'est qu'aussi, il était charmant, simple, bon, doux avec les plus petits. Être un soldat pareil et se faire aimer comme un enfant, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus beau. Et il ajoute après un silence. Il avait la foi, celui-là. Chaque matin, il venait prier ou communier au milieu de nous, disant avec un sourire, « Il faut se tenir prêt. » Il est nuit noire quand je sors de chez l'évêque, auquel je ne pensais faire qu'une courte visite. Autour de chez lui, bien entendu, tout est désolation, éboulement, décombre. Rien n'a plus forme de maison et on ne retrouve plus trace de rue. Je m'en vais, avec mes deux serviteurs, nos revolvers et notre petit fanal. Je m'en vais songeant à l'enseigne Henri, à sa gloire, à sa délivrance, à tout autre chose qu'à l'insignifiant détail du chemin à suivre dans ces ruines. D'ailleurs, c'est si près, 1 kilomètre à peine. Une bourrasque de vent de Mongolie qui éteint notre chandelle dans sa gaine de papier nous enveloppe de tant de poussière qu'on ne voit plus à 2 pas devant soi, comme en pleine brume. Et n'étant jamais venu dans ce quartier, nous voilà égarés, au milieu des obstacles et des trous, trébuchant sur des pierres, sur des débris, des cassons de poterie ou des cassons de crâne. À peine les étoiles pour nous guider, tant cette poussière fait nuage, et vraiment, nous ne savons plus. Une odeur de cadavre tout à coup. Ah, c'est notre découverte d'hier matin, la tranchée des scalpés. Nous la reconnaissons à certaines pierres du bord, juste avant de tomber dedans. Alors tout est bien, la direction était bonne, encore 200 mètres, et nous trouverons notre palais de verre. Nous serons chez nous.